Ce matin, on va parler du cœur de la loi. Et je me posais la question de ce que serait un monde sans loi, tout simplement. Un monde sans loi. Et on peut voir des films ou des séries où peut-être des groupes de personnes essayent de survivre dans un monde où il n'y a plus d'autorité. Mais quel bazar! Mais quel bazar! Ils ne cherchent même pas à construire des choses ensemble, parce que l'être humain ne regarde qu'à son nombril, et à sa vie, et à son confort. Et en fait, aucune construction ensemble, juste se détruire, parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de loi. C'est vraiment un grand bazar. Et quand je regarde à ce que Jésus a voulu apporter aussi, on pourrait se dire que Jésus était opposé aux lois de Moïse. Mais ça, c'est intéressant de réfléchir ça. Et pour ce faire, on va tourner en Matthieu 15, à partir du verset 10. Ou même à partir du verset 1. Est-ce que je peux avoir mon groupe d'acteurs devant moi ? Moi, les jeunes, allez, venez les jeunes. Ils savent pas ce qu'ils leur attendent. Vas-y, viens Théa aussi, viens. Voilà, divisez-vous en deux. Je veux deux groupes, restez en bas. Deux groupes, un à côté, le retour, et un plutôt par là. Voilà, parfait. Verset 1. Alors, des pharisiens et des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites « Celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu » n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi, la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par tes paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre ? » C'est bon, Fabio. On écoute. « Ne savez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc une chose que les disciples ne comprenaient pas. Et on se pose la question, est-ce que Jésus se moque de la loi de Dieu quand Dieu dit de se laver les mains? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a mis en avant? Et je réfléchissais à nous, comme on a grandi, hein, nos parents, nos mamans, nos grands-parents nous ont dit « Lavez-vous les mains avant d'aller manger », n'est-ce pas? Et peut-être on le faisait par obéissance ou par peur d'être puni ou par beaucoup de choses, mais je ne sais pas. Par règle d'hygiène. Et nous, on aime jouer quand on est jeune, donc se salir. Et on aimait manger. On aime toujours manger. Et donc, tout ce qui retarde ce moment était une formalité à éviter. Se laver les mains. Néanmoins, nous obéissons, que ce soit pour éviter une punition, une réprimande ou simplement pour manger le plus vite possible, nous avons obéi. Aussi, au fond, parce que nous avons constaté que la parole de la maman ou de la grand-mère était empreinte d'une sagesse qu'il fallait respecter. Mais ensuite, nous avons grandi et nous avons continué à nous laver les mains, même si notre maman ou grand-maman n'est plus là. Simplement, le souvenir de leur affection et l'expérience que nous avons acquise nous ont fait comprendre que ce n'était pas un simple caprice. Il était important de se laver les mains. Elle avait un sens, la santé était en jeu. Malheureusement, dans la vie, ceux qui critiquaient Jésus, il y avait un drame, ils n'ont jamais grandi. Leur amour a stagné, ils continuaient à se laver les mains, mais ils le faisaient toujours par peur de la punition. Ils n'ont jamais compris que les commandements de Dieu n'étaient pas un caprice, mais une orientation qui leur était prescrite pour la santé de leur âme. Bien sûr que c'est bien de se laver les mains, mais alors que le Messie est là et qui marche au milieu des disciples, qui fait des miracles, qu'est-ce que les pharisiens auraient dû voir? Qu'est-ce qui était important à ce moment-là? Est-ce que c'était le fait que les disciples ne se lavent pas les mains? Ou est-ce que c'est d'accepter le message et la venue de Jésus parmi eux? De reconnaître qu'il y avait quelque chose de merveilleux qui était là, qui était en train de se passer? La loi est le cœur de la loi. Est-ce que cette loi est tellement importante qu'on oublie celui qui est là au milieu de nous, qui vient nous parler, qui s'adresse, qui marche au milieu de nous? La loi est le cœur de la loi. Matthieu 5 dira, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » On continue au verset 21. Donc là, il faut que vous soyez tous du même côté. J'ai des acteurs formidables. Et du coup, il me faut une fille qui reste un peu en arrière. Voilà, donc vous marchez lentement. Mais descendez, vous allez tomber sinon. Jésus étant parti de là, se retira, stop, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai rien, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous pouvez vous asseoir ? Merci. J'aime bien faire des choses qui changent. Scandalisé. Deux choses que les disciples ne comprennent pas, que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on ne doit pas se laver les mains ? C'est Moïse qui l'a prescrit. Et là, Jésus, dans le second exemple, c'est incroyable parce que finalement, ils sont contents. Il y a une étrangère du peuple d'Hébreu qui vient et qui veut voir le maître. Et il est consacré aux Juifs. Consacré aux Hébreux. Que vient faire cette femme-là, cette étrangère qui crie en plus, elle nous fatigue. Jésus, renvoie-la. Et lui, Jésus, il ne dit aucun mot pendant un long trajet. Et les disciples sont contents, ils disent, ah, ben c'est bon, on a compris, c'est une étrangère. En plus, il le dit, elle n'a rien à faire dans ce peuple-là. Et vous savez, il y a une chose que Dieu fait dans notre vie, c'est que parfois, pour nous faire comprendre quelque chose, il va aller dans notre sens. Il va aller dans le sens de ce que notre cœur croit pour nous donner une grande leçon. Parce que cette femme cananéenne, elle n'avait pas d'héritage, mais à la fin, sa foi lui a donné un héritage incroyable. Parce que le salut est ouvert à tous. Et Jésus a voulu leur donner une leçon tellement importante. Je suis sûr que si Jésus s'était retourné et aurait dit à cette femme « Ta fille est sauvée, va, rentre chez toi », bon, ben, pour les disciples, ça n'aurait pas marqué. Mais le fait que Jésus ne dise rien pendant un certain temps, pendant que cette fille criait, et qu'au bout d'un moment, ils lui disent « Ah, mais tu n'es pas de ce peuple, va-t'en, j'ai rien à faire avec toi ». Et les disciples sont contents, ils disent « C'est bon ». Et non, Jésus va quand même faire un miracle avec cette femme. Ça les a marqués. Jésus va faire des choses dans notre vie qui vont nous marquer. Pourquoi ? Parce qu'on a des présupposés d'amour. On se dit « Oui, Dieu, il pense comme ça, moi je dois agir comme ça. La Bible pense comme ça, l'Église dit ça. » Des présupposés d'amour, d'acceptation. Mais jusqu'où ça va ? Est-ce que quand on va évangéliser, est-ce qu'on fait un tri de ceux qui sont bien habillés, de ceux qui ne font pas la manche, de où sont nos présupposés ? Qui peut se convertir ? Qui peut croire ? Qui ? Au travail ? Est-ce que je parle à tout le monde ? Est-ce que mes amis, mes voisins ? Où sont nos présupposés ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus dignes que d'autres ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que parfois je ne viens pas à l'église ou je ne lis pas ma Bible parce que je veux vivre ma vie chrétienne comme je l'entends, comme mes présupposés me guident ? Le rassemblement des saints, mes frères. Le rassemblement des saints est tellement important. C'est un endroit où on sera vraiment édifié, où on sera vraiment repris, où on sera à notre place. Oh, le Seigneur va faire des choses qui vont nous surprendre. Des choses qui vont nous surprendre. Mais pourquoi faire un jeu d'acteur à l'église le dimanche, quand même, c'est un lieu saint. On ne doit pas faire ça, ce n'est pas normal. C'est pas grave, moi ce matin je veux vous surprendre, je veux vous faire comprendre l'importance de qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que c'est important d'avoir une belle tenue, d'avoir un beau discours, une belle église, ou est-ce que c'est important de rechercher quelque chose qu'il y a dans le cœur et d'aller le chercher, d'être attiré par Jésus, par la croix, par ce qu'il y a. C'est ça qui est important. Jésus leur crie, arrêtez votre religiosité, mais croyez, soyez doux et humbles de cœur. Humble, c'est ce mot qui revenait, André en a parlé, Arnaud en a parlé, Pasteur Pierre en a parlé. Moi, ce mot, il me revenait aussi. Humble, l'humilité. L'humilité. Et Jésus va dire, ne suis-je pas venu ? Mais vous savez combien de fois arrive le « ne suis-je pas venu » dans les évangiles ? Tellement de fois, je n'ai pas pu compter. Une centaine de fois peut-être. Je vais en citer quelques-uns. « Ne suis-je pas venu pour les brebis perdues ? Ne suis-je pas venu pour les oublier, les délaisser ? Ne suis-je pas venu vers celui qui est fatigué et chargé ? Ne suis-je pas venu pour accomplir la loi ?» Matthieu 5, 17. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Matthieu 9, 13. Ne suis-je pas venu appeler les justes, mais des pécheurs ? Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui voient, pour ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Les justes, justes. Jésus, il est venu pour ceux qui se croient trop courts, qui se voient trop courts, qui se voient perdus. On le verra Matthieu 18, 11. Il est venu sauver ce qui était perdu. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et est-ce qu'on se croit assez perdu ? Est-ce qu'on se croit assez pécheur pour accepter ? Hein ? Jésus, lui, il recherche notre humilité. Il ne cherche pas des super-héros, des gens qui font des super choses. Sinon, il n'aurait pas pris ses disciples-là. C'est quand même incroyable. Comment il a choisi ses disciples ? Non, Jésus, il recherche le cœur. Ceux qui vont être capables de croire, d'avoir la foi jusqu'à le suivre, même après qu'ils soient morts, de servir et de diriger quelque chose, parce que leur foi aura été fondée sur un rocher et pas sur un brin d'herbe qui s'envole. Non, les disciples n'étaient pas des roseaux qui cassaient, mais c'était... Ils avaient basé leur foi sur quelque chose de solide. Matthieu 20, 28. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. L'humilité de notre Dieu au milieu de nous, qui était venu pour servir. Servir. Laver les pieds. Jean 3, 2, il est venu de Dieu. Jean 5, 43, venu au nom du Père. Nous sommes envoyés de Dieu quand nous sommes dehors. C'est un commandement de Jésus, hein, Matthieu 28. Hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes envoyés de Dieu, envoyés par Dieu, nous sommes ses enfants et nous sommes appelés de faire de toutes les nations des disciples, les Cananéens, les Arabes, les Chinois, les Bouddhistes, toutes les nations, les mendiants, les riches, les orgueilleux, les colériques, de toutes les nations des disciples, de toutes les nations des disciples. Et nous sommes envoyés de Dieu. Une femme dira en Jean 4, 25, « Il nous annoncera toutes choses. » Jésus est venu annoncer toutes choses, annoncer la paix, annoncer le royaume de Dieu, annoncer toutes choses. Jean 6, 25, Certains lui disent, parce qu'ils se retrouvent sur la plage, ils lui disent, quand es-tu venu ici? En Jean 21, il est dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus est venu, Jésus est là. Jésus est là, présent, au milieu de nous. Il est venu dans notre vie, il est venu à notre rencontre. Parfois, on le reconnaîtra pas. Parfois, on lui dira, mais qu'est-ce que tu fais là? Vendredi, je partageais sur ça aussi le fait que Pierre a marché sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Et quand il a été moins humble, il a regardé aux choses. Quand il a été inquiet de ce qui se passait autour de lui. Mais soyons pas surpris de trouver Jésus sur notre route. Recherchons-le. Recherchons-le. Bien au contraire. Psaume 23 nous dira, je ne crains aucun mal, car même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Jean 10, venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Merci Seigneur d'être venu pour moi. Jean 12, 46, venu comme la lumière du monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 15, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Un peu plus loin, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, lui aussi il est venu. Lui aussi il est venu dans notre cœur, remplir notre cœur. Seigneur Jésus, il est venu nous annoncer toutes choses, nous montrer un chemin, nous montrer un service d'humilité, nous montrer la vie. Mais maintenant, à vous qui croyez, le Saint-Esprit est venu en vous. Et lui, il va vous convaincre de justice et de jugement. Lui, quand vous allez marcher, quand vous allez douter de savoir qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite, est-ce qu'aujourd'hui je dois aller à l'église? Est-ce que je dois aller à toutes les réunions de prière? Est-ce que je dois me lever à 6 heures du matin pour faire la réunion de prière? Est-ce que je dois parler à mon voisin? Est-ce que vous allez avoir toute votre vie? Vous savez quoi? Il y a le Saint-Esprit en vous qui peut vous donner des réponses. Qui va vous dire, là, tu en fais trop, tu es en train de tuer ta famille parce que tu n'es plus présent. Là, ce voisin, il a tellement besoin de toi, vas-y. Arrête ce que tu fais, vas-y. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas timide, vas-y, parle, ouvre ta bouche, vas-y, en mon nom, vas-y. La loi du Seigneur, elle répond à des choses qui sont au fond de nous. Dans Matthieu 28, il est dit, « Quand le soir sera venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire. Parce qu'un jour, on aura un salaire, des récompenses pour tout ce qu'on aura semé dans cette vie. Et comme le disait André très justement hier, ce monde veut nous satisfaire. Il suffit juste de nous occuper un petit peu avec le téléphone et de nous donner assez de choses pour pouvoir manger. Tout va bien. Je suis heureux, je n'ai besoin de rien d'autre. De rien d'autre. Mensonge. La première chose que tu dois mettre devant toi, c'est de croire, c'est de suivre le Seigneur. Et si tu n'as pas de téléphone, ce n'est pas grave, tout va bien. Ça va aller. Je te jure, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que vous savez que ça va aller? Vraiment, ça va aller. Genèse 43, verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre offre, frère Benjamin, et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » C'est Jacob qui parle. Joseph a déjà fait son œuvre et ils viennent chercher leur père pour lui dire « Joseph est là ». Mais ce passage nous montre quoi ? Nous montre que Jacob était aveugle. Il était aveugle. Son cœur était empêché. Il était dans la loi. Il était aveugle. Aveugle de quoi ? De choses qu'il avait idolâtrées. Ses enfants. Alors que quand il était jeune, il était prêt à être sournois, à tromper son entourage pour attirer les choses que Dieu pouvait donner. Qu'est-ce que Dieu pouvait lui donner ? La bénédiction, le droit d'aînesse. Mais une fois qu'il est devenu vieux, il s'est donné des idoles, ses enfants. Il a plus aimé un enfant qu'un autre. Et il est devenu aveugle aux choses. Vous imaginez Joseph, on lui dit qu'il est décédé, et pendant des années, il ne considère même plus les 11 autres enfants qu'il a. 11. Plus aucun intérêt. Et là, maintenant, il s'attache à Benjamin. Aveugle. Il est aveugle, il ne voit plus rien. Jacob, d'ailleurs, jusqu'à sa couche, il ne distinguera plus les choses. Mais c'est incroyable comment, dans notre vie, on peut mettre des choses, s'attacher à certaines choses et devenir aveugle aux choses de Dieu, aveugle au plan de Dieu. Et vous savez ce qui est en train de se passer ? Dieu préparait un chemin. Dieu utilisait ça pour une grande œuvre à travers Joseph. Et on le voit au chapitre 45, au verset 27. Il est dit une chose incroyable. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Son esprit se ranima. Parce qu'il a compris, j'anticipe, il a compris, j'espère, il a compris que c'était l'œuvre de Dieu. Il a compris que la famine allait arriver et que le peuple allait être élevé, que le peuple allait avoir une place incroyable dans le monde dans lequel il vivait. L'esprit de Jacob se ranima. Vivre pour Dieu, c'est quoi ? Ce n'est plus vivre pour soi, c'est rechercher le bien, marcher dans la lumière. Et on pourrait se poser cette question, oui, mais si je vis pour Dieu, cela va me couper plein de plaisir. Plein de plaisir. J'imagine. Si je suis jeune, mais pourquoi l'Église, ça me semble une loi tellement compliquée à réaliser, tellement de choses à faire. J'ai plus de plaisir à vivre. On n'a plus de plaisir à faire les choses. Je ne pourrais plus faire ça, je ne pourrais plus faire ci. Plus de plaisir. Si je vis pour Dieu. Mais vous savez, il y a un problème. Hein. C'est Philippiens 3:20 qui nous le dit. Philippiens 3:20 nous dit quoi ? Je l'ai écrit sur le groupe des jeunes. Il dit « Mais notre cité, à nous, et dans les cieux, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes citoyens du ciel. » Et si on n'est plus de ce monde ne nous attire plus. Ce monde ne peut rien nous apporter. Et les choses qui peuvent nous apporter, les choses qui peuvent nous toucher, c'est les choses qui viennent de Dieu. Et ces choses-là, la parole ouverte, un frère, une communion de frères. Moi, je le vois quand on est avec le groupe de jeunes, il y a la vie. Mais la vie, elle est sainte, elle est saine. C'est pas comme moi, quand j'étais jeune, qu'on se retrouvait, c'était n'importe quoi. Mais là, vraiment, je vois la vie. Il y a quelque chose là, quelque chose de précieux. Et c'est ça qui est différent. Parce que ce monde ne peut pas nous rendre heureux. Ce monde, il est fourbe, méchant, malhonnête. Il ne cherche pas l'unité. C'est du chacun pour soi. Où est ta place? Où doit être ta pensée? Au psaume 3, c'est intéressant comment on s'est dit, c'est le début du psaume, c'est quelqu'un qui râle un peu et qui dit « Seigneur, il y a tellement d'ennemis autour de moi, tellement de choses qui se passent. » Et au verset 5, il dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alors, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » C'est magnifique, magnifique. Il peut vous arriver n'importe quoi, mais criez à l'Éternel, parlez-lui. Et vous savez quoi? Il me répond de sa montagne sainte. La paix qui bannit l'inquiétude, hein, c'est ça. Le cœur de la loi, de la compréhension de ce que Jésus est venu apporter aux hommes. Il a bouleversé ce monde par ses paroles. Il peut venir bouleverser notre cœur si on est doux et humble, si on sait reconnaître qui il est au milieu de nous. Je suis venu, je suis venu, je suis venu. Amen.